Et bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver après tout ce temps. Oh là là, aucune régularité David, bravo. On est dimanche, on est parti pour se balader un peu en forêt et j'ai pensé à vous. Quand je vous parle pas, quand je fais pas d'enregistrement, c'est très souvent parce qu'il se passe plein de trucs et c'est difficile pour moi de parler pendant que l'événement se passe. Pendant qu'il y a un problème à résoudre, je préfère arriver avec des choses un peu qui ont eu le temps de décanter, qui ont eu le temps de réfléchir, qui puissent vous servir. Voilà. On est encore au mois de novembre et c'est le mois sans tabac. Donc, petite phrase de soutien auprès de toutes les personnes qui veulent arrêter de fumer. Ça va être très rapide. Arrêter de fumer, c'est vachement simple. Vraiment. C'est très simple. Et moi, j'ai arrêté de fumer très facilement. Et ça faisait 15-20 ans que je fumais. Ça fait un an que je fume plus. L'idée de goûter encore de la nicotine aujourd'hui me dégoûte. Parce que vraiment, ça a un goût dégueulasse. Et c'est extrêmement amer. Et ça vous chope les gencives. Et c'est horrible. Mais ça fait un an. Et j'ai arrêté de fumer très simplement. Comment ? J'en ai parlé à mon médecin. Il m'a prescrit des patchs. Les patchs, c'est un programme Bref, pour diminuer l'addiction, on démarre avec le dosage de nicotine que vous avez, et puis chaque mois, on baisse, et vous vous en rendez même pas compte. Et puis arrivé à la fin, y a plus de dépendance. Terminé, vous l'avez même pas senti. Donc, arrêter de fumer, c'est très simple. Voilà, je le redirai jamais assez, parce que j'ai passé des années à croire que c'était difficile. C'est très simple. Et puis, il y a vraiment une vie après, quoi. Limite, vous comprenez même pas pourquoi vous avez fait les choses. Bref, aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu du cercle et de l'époque. Et un peu tout ça, quoi. Ah. On est au cœur de l'automne et il y a déjà quasiment plus une feuille sur les arbres. Il y a de la boue. On dirait qu'il y a eu la guerre dans la forêt. Alors, par où commencer ? Le cercle est chamboulé. Mais vraiment, bousculé. Et je m'interroge beaucoup sur lui. J'ai discuté hier avec un ami qui travaille dans le domaine marketing, tout ça. Il y a des boîtes et je lui ai dit je te paye si tu augmentes mon chiffre d'affaires, je te donne un pourcentage surtout, ta carte blanche, vas-y. Et il a regardé, on a discuté, on a fait des réunions, je lui ai présenté tout ce qui était le cercle. Il m'a dit c'est incroyable, c'est alors pas ouh ah génial, non, c'est juste que c'est tentaculaire, il y a des trucs un peu partout, ça apporte des choses à plein de gens, ça rend des services, etc. C'est pas super rentable, c'est pas assez rentable dans sa forme actuelle, ça a besoin d'être peaufiné, amélioré, il y a beaucoup de pertes d'énergie, d'accord. Il m'a regardé ça, il a dit bon, il m'a envoyé le message ce matin, enfin non, hier soir, il m'a dit bon, je vais pas le faire, je vais pas t'aider, je vais pas venir passer du temps là-dessus, parce que je crois pas du tout à ton projet. Je pense que les rédacteurs web, c'est mort. Je pense que le marché de la rédaction web est morte. Je pense que la formation en rédaction web est morte. J'ai pas envie de passer du temps sur quelque chose qui va rien me rapporter. Bon, c'est un ami, hein, je le rappelle. Ah, ça me fait réfléchir. Ça me fait réfléchir, est-ce qu'il a raison ? Parce qu'il peut avoir tort, il n'est pas de mon milieu, il n'est pas de mon domaine, donc... il peut tout à fait ne pas voir ce que je vois. Mais à l'inverse, il peut voir la vérité et moi, je me cache la vérité. Ça marche dans les deux sens. Donc, on se pose un peu la question. Il y a quelques jours, on a appris que notre organisme certificateur, qui nous permet d'avoir un certificat officiel pour notre formation WordPress, qui est la double formation WordPress plus Rédacteur Pro, c'est la grosse formation, qui offre donc deux formations différentes en même temps, Le certificat officiel permet la prise en charge CPF, précieuse. Et donc, en fait, cet organisme a annoncé que, au moment du renouvellement de ces certificats, l'organisme qui s'occupe de choisir si un certificat peut être renouvelé ou non, organisme national, tout ça, a dit non. Il a dit non à notre certificat, mais aussi à tous les certificats de notre organisme certificateur, qui est un gros truc, hein. C'est peut-être un des plus gros de France, il y a plus d'un millier d'organismes de formation qui dépendent de lui. Et il n'a plus rien. Il n'a plus rien. C'est la panique, on a reçu un mail du président qui disait on ne sait pas du tout pourquoi c'est arrivé, on se calme, ne nous écrivez pas, ne nous appelez pas, on va communiquer, ne nous harcelez pas, parce que le CPF ne marche plus pour un millier de centres de formation aujourd'hui. C'est grave, c'est très grave. Donc nous, on a tout un mode de financement qui vient de tomber. Mais surtout, des questions qui apparaissent, parce que notre formation rédacteur pro, qui est un bijou, c'est un bijou ce truc, c'est-à-dire que ça vous apprend le marketing, la communication, ça vous apprend l'entrepreneuriat, ça vous apprend les typologies de clients, ça vous apprend les typologies de contenu, ça vous forme à l'architecte de contenu, ça vous forme à ChatGPT, ça vous forme à la prospection. Je veux dire, ces 13 semaines intensives, et ben c'était aussi une formation complète WordPress, niveau pro, qui est intégré dedans. Je veux dire, les élèves, ils me disent souvent que ça fait peut-être un peu beaucoup là, non? Mais on y arrive, il y a un bon rythme, on a des séquences par semaine où on travaille sur des sujets donnés, chaque semaine un exercice, etc. Et 3 semaines consacrées donc à WordPress. C'est super, mais maintenant qu'il n'y a plus le certificat, faut-il continuer WordPress? Est-ce raisonnable? Est-ce que ça a du sens pour un rédacteur web, dans sa formation de rédacteur web, de se former à WordPress? Et ça, ça me pose aussi beaucoup de questions. La réponse, c'est pas non, allez hop, on dégage ce truc. C'est pas ça. Parce que, en réalité, c'est un vrai atout pour les élèves que j'ai déjà eus, qui vendent, pour le coup, cette formation. Bonjour.
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 Ah, votre chien a été sauvé, ce n'est pas lui, non?
C'est celui-là, le mien.
Ah oui, ah non, parce qu'à un moment donné, il y avait un monsieur, mais c'était peut-être pas vous. Son chien, il cherchait toujours son chien, puis il s'est sauvé toujours.
C'était quand?
Oui, ça remonte. Après, à un moment donné, même les pompiers l'avaient retrouvé, il était dans
le terrier. Ah oui, si, c'est elle.
Ah, c'est elle, mais elle se sauve plus alors?
Bah, si, toujours.
Hein? Mais elle revient quand même.
Mais elle revient, les pompiers l'ont trouvé, il y a un pompier qui a voulu aller pisser quelque part, il l'a trouvé dans un trou. Non, faut arrêter avec le sketch des pompiers qui sont venus me sauver. Hein. Ils étaient au courant de rien, il y en a un qui allait pisser, il a trouvé mon chien.
Ah, voilà, okay.
Qui était, vous savez, dans les fondations qui sont derrière là, l'espèce de carré. Elle était tombée dedans.
Ah, okay.
C'est tout. Sinon, mon chien, en fait, je le perds absolument jamais.
D'accord,
c'est justement pour ça. Et c'était au bout de 2 heures de recherche. Là, je repartais pour faire la boucle. J'ai croisé les pompiers là à ce moment-là.
D'accord, oui, parce que dans le journal, c'était marqué comme quoi ils avaient recherché, qu'ils l'avaient trouvé dans un terrier. Enfin, je sais plus que c'était là, quoi. Ah, ok. Bah, c'est ce qu'on a lu dans le journal.
Je vous souhaite de passer dans le journal aussi. Vous allez adorer.
Non, mais c'est quand même enfin, des histoires. Enfin... C'est un petit roman pour un truc qui était même pas...
J'ai écrit au journal quand même pour leur dire que d'abord, ils n'avaient pas diffusé ma photo, parce que la photo, je l'avais donnée aux pompiers pour leur mur Facebook. Le journal a volé la photo. Hein. Donc voilà, en plus, ils m'ont donné le nom du chien, mon nom, etc. Je me fais arrêter dans la rue régulièrement, des gens qui me disent...
Vous
êtes adorable. Moi, j'ai des gens qui me disent que je ne sais pas éduquer mon chien. Mon chien, il a un diplôme CSAU, il a fait 2 ans en école canine, il obéit au doigt et à l'œil mieux que n'importe quel autre chien. Mais on me fait la leçon. Donc voilà, je vous souhaite de passer dans le journal. Vous allez adoré.
Non, mais ça, je me suis dit, votre visage, le chien, je me suis dit, bon...
Oui, on s'est déjà croisé. Oui, voilà. Non, mais je suis quelqu'un de connu, maintenant.
Vous voyez, hein? Vous avez quand même... Voilà, vous faites des autographes aussi, ou non?
Exactement. Elle, surtout. C'est elle qui fait des petites tâches. Là, vous avez un très bel autographe sur votre jambe. Je suis désolé, d'ailleurs. Elle vous a fait une petite tâche.
On avait un chien... Franchement,
bonjour.
Bonjour, ça me dérange pas. On avait un labrador qui sautait, donc c'était quand même...
C'est autre chose.
Un peu plus haut, quand même.
On est d'accord.
Ça me dérange pas du tout. Hein, Fifi? Et alors, hein? T'es connu, toi?
Exactement, oui. Hein?
Non, mais là, bon, nous, la fois qu'on la voyait, elle courait, 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 courait. Quand on vous voyait, elle courait, courait, elle courait. Des fois, elle disait, mais elle est où le maître? On la voyait courir, courir.
Oui, oui, c'est ça. Quand elle me perd, en fait, elle refait le chemin à l'envers jusqu'à me retrouver. Oui. Donc, c'est là
je
où...
Je sais que la fois, vous avez vu, vous attendiez dans un coin, vous disiez, j'attends qu'elle revienne. Parce qu'on vous avait vu, justement.
C'est ça. C'est exactement ça, c'est comme ça qu'elle se comporte.
Mais elle a quel âge?
Elle a 6 ans maintenant, 5-6 ans.
Oh, on dirait pas, hein. Mm-hmm. Elle a l'air vraiment jeune encore, hein.
Oui, les gens considèrent toujours que c'est un petit...
Oui, bah comme elle est petite, on la voit encore un
peu. Et puis elle a...
Oui, le visage,
ouais, même le visage, voilà. Oui. Ouais, même le visage.
C'est une tête de chihuahua. C'est Oli.
Oli.
T'as pas bien lu le journal ou quoi?
Oh, bah... Je me suis rappelé du monsieur et du chien.
Je suis très étonné qu'elle connaisse pas le nom de mon chien. Habituellement, tout le monde...
Déjà, vous, je vous reconnais le chien, donc...
Non, mais c'est impressionnant, hein. Je suis passé une seule fois dans le journal, j'ai réussi à faire retirer la photo le lendemain, et c'est des centaines de personnes qui m'ont... C'est quand même impressionnant.
Ah, oui. Dès qu'il y a un truc avec un animal...
Ouais, voilà, bah oui, ça aussi, oui.
Ah, ça, c'est clair, c'est vraiment impressionnant.
Dis-moi la fifi.
Allez, hop, on y va.
Bon, allez, bonne balade, bon dimanche. Au plaisir. Oui, pour le coup, c'est dimanche, alors je peux vous raconter aussi un peu ma vie. J'avais égaré mon chien et les pompiers l'ont retrouvé par le pur hasard. Hein. Les pompiers, vraiment, c'était pas du tout, ils étaient en exercice. Et comme je disais, il y en a un, il a voulu aller se soulager quelque part. Et il est tombé sur mon chien qui était prisonnier d'une espèce de fondation de maison avec les murs un peu hauts, quoi, comme un carré qui sort de terre. Et elle était tombée dedans. Et moi, je l'avais cherché plusieurs fois et mon chien n'aboie pas quand elle est coincée. Elle croit que par télépathie, je sais exactement où elle est. Donc elle s'inquiète pas, elle se dit, il va arriver. Bref. Donc je récupère ça, les pompiers disent, ah bon, bah on a eu de la chance. Je dis, oui, on a eu de la chance. Les pompiers disent, ah bah on fait une petite photo. Je dis, bah, si vous voulez, allez pour le mur des pompiers, je soutiens, vous avez été gentil, merci. Mais ça aurait pu être vraiment n'importe qui l'a trouvé, quoi. C'était vraiment pas des recherches. Et donc, en fait, le journal tombe sur la photo, et se dit, tiens, bah, ça va me faire un petit truc. Et il la diffuse au niveau local, sur Internet et en version papier, avec ma photo et mon chien, et sans mon autorisation. Et bah, y a vraiment tout type de réaction à ce moment-là. Ça, c'est les réactions un peu marrantes que vous avez entendues, mais j'ai déjà des gens qui sont venus me faire des vrais reproches. Mais vraiment, genre, vous êtes un mauvais maître, on devrait vous retirer votre chien. Alors, c'est vrai que l'article disait, oui, il l'a perdu, mais les pompiers l'ont retrouvé. Donc, ça donne vraiment un côté un peu incompétence. Mon chien n'est jamais en laisse. On fait 10 km par jour, c'est-à-dire que depuis que j'ai mon chien, on totalise à peu près 40 000 km de balade sans laisse. Ok, il n'y a pas plus expert que moi sur le sujet. Mais voilà, donc pour le coup, j'ai commencé à faire des actions un peu lourdes par rapport au journal pour lui faire retirer cette photo en lui disant que c'était absolument pas un droit de sa part de diffuser sans consentement des gens leur photo. Et lui, il disait qu'il y avait un droit à l'information et je lui ai sorti les textes de loi qui montraient qu'il était en état d'abus, il abusait réellement. Et il a retiré la photo. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que les journaux, aujourd'hui, préfèrent faire du forcing pour avoir un peu d'audience, avec des gens qui vont liker parce que, ah, il y a une histoire de chien qui a été retrouvé, plutôt que de rester dans les clous de leur loi. Donc il faut toujours rester vigilant par rapport à ça. Alors je suis fâché maintenant avec les pompiers, je suis fâché avec, le journal. Bref, faites des photos. Ça fera plaisir. La prochaine fois que quelqu'un vous demande une photo, dites non, je vous jure, hein. Vous rendrez service à tout le monde, y compris à vous surtout. Enfin bref, voilà. J'en avais parlé longuement dans un podcast précédent, hein, de cet événement-là. C'est pas quelque chose que je réserve parce que je pense que c'est une leçon que tout le monde peut prendre pour lui. Ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver affiché publiquement. En mal, j'entends, en mal, hein. Et sans maîtrise surtout. Donc, revenons un petit peu à l'histoire, on a perdu le certificat, je suis donc en train de me questionner sur l'importance de WordPress, donc voilà un autre dossier qui est ouvert. Faut-il transformer cette formation? Faut-il changer de nom? Faut-il changer son identité, etc. En plus, donc, mon ami me disait, le marché de la rédaction web est mort. Et ça, c'est une autre question que je me pose, qui est très importante, qui est vraiment de se dire, est-ce que je forme des gens à un métier d'avenir aujourd'hui ou pas? Est-ce que c'est quelque chose qui a une suite? Bonjour. Ou alors, est-ce que je forme des gens à ne rien faire par la suite? Donc, vu qu'il y a un nouveau modèle qui est en train d'émerger et qui a besoin de se reparamétrer parce que ChatGPT est vraiment en train de tout bousculer, mon ami me disait, je sais que les rédacteurs web, c'est mort parce que tous les clients que j'ai, qui autrefois me passaient des commandes de contenu, aujourd'hui n'en passent plus du tout. Ils ont tout internalisé avec ChatGPT. Et ce qu'ils font, c'est mauvais. Alors, je cherche un petit peu à comment réagir à ça, finalement. Est-ce qu'il y a un besoin? Vous savez, on est toujours dans la question du marketing. Est-ce qu'il y a un besoin, non pas pour les élèves, mais pour les entreprises? Est-ce qu'on a encore quelque chose à leur apporter? Moi, je pense que oui. Je pense que oui. Mais il faut... Il y a un certain acte de foi à faire. Et je ne sais pas si les rédacteurs web le feront. Ils sont très nombreux à abandonner le navire. Très nombreux à se dire que ça va mener nulle part. J'ai des élèves, enfin des gens en prospection qui me contactent, on fait les entretiens et ils me disent j'adore écrire, j'ai envie d'être chez moi, j'ai envie de travailler pour des marques, j'ai envie de propulser leurs ventes, je veux faire aussi du copywriting, je veux faire des trucs super parce que je sais que c'est ça ce que j'aime. Mais aujourd'hui, je leur dis comment on pense la chose alors qu'une machine fait la même chose gratuitement? Comment on pense la chose? Qu'est-ce qu'on fait de cet événement-là? Parce que on doit en faire quelque chose. On ne peut pas le laisser tel quel. On ne peut pas se dire juste, c'est pas pour moi. Il y a des clients qui font signer des papiers disant je refuse que ce soit que les contenus soient générés. J'entends. J'ai vu encore ce matin une agence faire une pub, il s'appelle Rédacteur AI. Je sais pas trop en fait. Si, non, c'est un nom bizarre avec plein de lettres, plein de voyelles, genre Wougoua ou je sais plus quoi. Je sais pas s'ils ont trouvé le meilleur nom pour le coup, parce que j'arrive pas à le retenir alors que je l'ai vu deux fois et j'ai même essayé de le prononcer. Donc, il est pas rentré. Mais en tout cas, donc eux, ils font une publicité sur Facebook, je crois, ou sur LinkedIn, je sais plus, qui dit nous, on a adopté l'intelligence artificielle, on travaille avec les générateurs de contenu et on est très bon dans ce qu'on fait. Et puis j'ai regardé ça et je me suis dit, en tant que client, je me méfie. Pour moi, ça pue. Ça pue. Je me dis, ok, je vais tomber sur des guignols qui sont auto-déclarés rédacteurs web. Rédacteur web qui n'a aucun cadre, hein, je vous le rappelle. Donc n'importe qui peut dire je suis rédacteur web, ça pose aucun problème. Et qui génèrent comme ils peuvent avec ChatGPT des machins qui sont à peu près corrects. Et basta. D'accord ? Moi, là, je suis en train de former quelqu'un à l'utilisation de ChatGPT à un niveau professionnel, ce qu'on appelle le rédacteur augmenté, parce que je travaille sur une espèce de formation pour ça, quand même. Elle m'a produit un texte que j'estime satisfaisant. Il lui a fallu 1h30 avec ChatGPT. 1h30. On en est là, hein. Donc, le contenu commence à devenir très bon, mais il faut quand même du temps. C'est pas un accélérateur. Alors, les gens pourraient me dire, ben, 1h30, je peux l'écrire moi-même. Y a plein de paramètres qui ont été pris en compte qu'on ne peut pas décemment prendre en compte en 1h30 pour un seul contenu en temps normal. D'accord ? C'est quand même comme si vous aviez deux ou trois personnes qui travaillaient avec vous pour assurer la meilleure qualité de contenu du texte. Donc il y a quand même quelque chose de supérieur. Mais je pense qu'il y a une éducation à faire. Je pense qu'on est complètement à côté de la plaque quand on essaye de vendre l'intelligence artificielle. C'est pas ça. Je veux dire, vous vendez pas l'intelligence artificielle. Je sais pas comment vous dire. Si jamais vous devez vendre des contenus qui ont été générés par l'intelligence artificielle, ce que vous vendez, c'est l'efficacité du contenu. Sinon, ça n'intéresse personne comment vous l'avez fait. Exemple. Vous allez dans un supermarché et on vous vend un gâteau dans le rayon pâtisserie. D'accord ? Moi, d'ailleurs, je vais pouvoir prendre un truc qui est vrai et qui m'a beaucoup étonné. Donc, il y a les gâteaux, là, vous les voyez. Si vous êtes... dans les supermarchés, il y a souvent un rayon pâtisserie. Et là, vous avez des gâteaux qui sont dans des boîtes plastiques, prêts à l'achat entre 5 et 10 euros. À peu près, un peu plus, un peu moins, voilà. Et des gâteaux classiques, des forêts noires, génoises, des trucs comme ça. Bref. Là, vous vous dites, bon, bah ça, c'est des machins industriels. Pourquoi ? Je suis dans un supermarché, ils industrialisent tout, ils ont des volumes de vente phénoménaux. Donc, bien sûr que les gâteaux ont été faits dans une usine, quelque part, et mis là, bien sûr. Et pour le coup, 5 à 10 euros, vous savez que vous achetez un truc qui est industriel, qui est bof. Ok. Moi, j'ai appris, mais je ne sais pas si c'est vrai partout, que dans le supermarché dans lequel j'allais, il y avait une dizaine de vrais pâtissiers qui étaient dans un atelier spécial derrière et qui, eux, concevaient les gâteaux pour toute la journée. Tous les jours, ils faisaient un grand nombre de gâteaux ensemble avec du matériel de pâtisserie. Ça, ça change mon point de vue. Je me dis, ok, là, c'est des pâtissiers qui font un bon boulot de pâtissier, mais qui le font à une plus grande échelle parce qu'ils ont plus de moyens et une meilleure chaîne de production, ce qui permet de vendre les gâteaux moins chers en supermarché. Donc là, en fait, la promesse a changé. Et là, le gâteau commence, vous voyez, le prix 5 à 10 euros devient très intéressant. Ah, c'est un gâteau de pâtissier, mais qui est moins cher. Donc c'est le même gâteau, donc c'est le texte, c'est le même gâteau, mais la promesse a changé. Je suis les deux pieds dans la boue. Je vais me casser la gueule si ça continue comme ça. Hop, 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 c'est bon, je suis passé. Ah, dis où mon chien, je l'entends. Eh ben, je sais pas. C'est parti. Les pompiers vont me le retrouver. Et donc, c'est la vraie question. C'est-à-dire, est-ce que le gâteau a changé parce que la promesse a changé? La réponse est oui. Un texte généré, on s'en fout. Le gâteau, on s'en fout. En tant qu'achat de gâteau, on s'en fout. Par contre, ce dont on ne s'en fout pas, c'est la promesse du gâteau. Fait par un pâtissier signifie qu'il sera de bien meilleure qualité, les ingrédients ne seront pas chimiques, il n'y aura pas d'industrialisation, il y aura un travail de fond, esthétique, etc. On a des attentes particulières sur le gâteau. Et encore, le débat pourrait aller sur quel gâteau, pour quelle situation et quelle promesse le gâteau tient, parce que les gâteaux ont aussi des promesses. Il vous suffit de vous dire que le jour de l'anniversaire de votre patron, si vous allez acheter un gâteau à 5 euros en supermarché, c'est pas dit que ça lui fasse plaisir. Donc vous comprenez qu'il y a une promesse dans le gâteau. Le gâteau est vecteur d'un message. Bref, donc, c'est une manière de vous dire que le rédacteur web, si jamais il vend des contenus générés, on s'en fout que les contenus soient générés. Ce qui compte, c'est est-ce que les contenus sont alignés sur la communication, pertinents, est-ce qu'ils sont cohérents, est-ce qu'ils ont du sens ? Et est-ce qu'ils génèrent de l'argent? Parce qu'ils arrivent à convaincre les gens de la qualité du produit. Est-ce qu'ils amènent de la cohérence? Parce que rien que garder la cohérence d'un contenu sur un site internet, c'est déjà un vrai défi en soi. D'accord? Donc, ces questions-là sont hyper importantes. S'il faut devenir rédacteur web augmenté, il ne faut pas dire « je génère mes contenus ». Il faut dire « je travaille » avec l'intelligence artificielle pour améliorer les points essentiels de mes contenus. Parce que ce que je veux, c'est les meilleurs contenus qui soient. Dans ma formation rédacteur augmenté, qui est disponible pour les élèves, c'est pas la formation hybride gratuite que vous avez, qui est déjà excellente, hein, qui a des super retours, merci à vous. Dans la rédaction augmentée, il y a une page spéciale que j'ai rajoutée à propos d'un document qu'on rajouterait systématiquement sur chaque texte qu'on livre. Et ce document explique précisément pourquoi ce texte est bon sur des critères SEO et marketing, de manière à ce que la personne comprenne quel produit elle achète. Moi, je pense que l'intelligence artificielle ne nous simplifie pas du tout la vie. Mais pas du tout. Par contre, elle décuple nos capacités. Je passe beaucoup de temps à générer des contenus que j'estime de bonne qualité, bien documentés, bien travaillés, avec l'intelligence artificielle, sur un style qui me convient, destiné à une cible particulière, avec le ton adapté à la cible, etc., etc. Je passe mes journées à ça, littéralement. Donc je connais la capacité. Je peux passer beaucoup de temps à paramétrer un texte, ça peut prendre parfois 2 ou 3 heures, et après je peux produire en série une dizaine de textes qui sont de la même qualité juste derrière. C'est-à-dire que en une journée, c'est pas déconnant, si jamais j'ai bien travaillé, d'avoir généré une 50aine de pages, documentées, recherchées, etc. C'est des choses qui sont hors de portée d'un rédacteur web traditionnel qui écrit les choses lui-même, parce qu'il va avoir un épuisement au bout de 10 pages, et c'est bien normal. Au bout de 10 articles, on n'en peut plus. Peut-être qu'on arrive à 15-20, mais il faut voir la qualité des articles que je propose. C'est des choses extrêmement pointues et maîtrisées. Donc, la question se pose. Est-ce que ça, on le vend au client ? Plus ça avance, plus j'essaye de redéfinir une espèce d'avenir. Mais je me dis, avec la force inertielle, le cercle des rédacteurs n'a pas le temps de pouvoir proposer ça et que le marché trouve l'idée pertinente et que tout puisse basculer. Il faudra du temps parce qu'on est les early adopters. On est les personnes en première ligne et les clients qui vont nous trouver sont déjà rares. Donc, quelque part, il faut transformer l'offre pour garder une continuité et la rendre attrayante. Exemple, je vous fais votre site internet pour 500 euros. Alors, c'est pas dingue comme prix. Hein. Des sites internet, mettons à WordPress, ça oscille entre 1000, 1005, 2000. Mais avec la vraie maîtrise de l'intelligence artificielle et des compétences qui vont avec, c'est-à-dire l'obscurcissement, les techniques de personnalisation, ce que je vous ai mis dans la formation rédacteur hybride, le MOOC gratuit qui est disponible sur le cercle des rédacteurs, c'est là, allez-y, regardez. Je vous explique exactement toutes ces choses-là, il y a zéro cachotterie. Avec ces techniques-là, je peux déjà accélérer toute la production de contenu. Donc, si je sais faire un site internet, et c'est pas évident à faire. Là, aujourd'hui, hier, j'ai travaillé sur les contenus de ma formation WordPress. On a travaillé le principe de maquettage et d'arborescence. Et c'est assez technique en soi. C'est déjà quelques heures de travail juste pour ça. Donc, ne croyez pas que les choses sont simples. Il y a un vrai savoir-faire là-dedans aussi. Donc, si on a la compétence de rédaction web, la compétence de communication, la compétence de marketing, la compétence de prospection, et qu'on a la compétence en prime WordPress, on peut fabriquer des produits directement. On peut proposer des produits directement. C'est pas évident et c'est vraiment, il y a des grands gaps d'évolution dans toutes les branches. Je veux dire, WordPress, moi, c'est pas en 3 semaines que je vais vous apprendre les arcanes du CSS. Je vais vous apprendre à penser un site, à le développer, etc. et à pouvoir en faire quelque chose de solide et robuste, mais ça va pas être quelque chose de fin. Il va falloir que vous retravailliez derrière des spécialisations. On est bien d'accord, c'est la même chose pour la rédaction web ou pour le copywriting. C'est pas une formation de 2 semaines qui va vous donner l'essence des choses, mais ça va vous donner le tronc, les branches, les sous-branches sur lesquelles vous allez pouvoir poser vos compétences. Et c'est ça l'essentiel. C'est comme ça qu'on avance, on se structure. Néanmoins, voilà, ma formation WordPress, je la questionne. La formation rédacteur pro, je la questionne aussi parce qu'il va y avoir, et c'est inévitable, de moins en moins de gens qui veulent être rédacteurs web. Il y a les poètes. Là, je sais que l'entretien que j'ai fait avec la personne hier m'a étonné parce que je lui ai expliqué ce qu'était le métier, là où on en était, comment il évoluait. Et elle m'a dit, je n'ai rien trouvé de ces informations-là. Tout ce que j'ai trouvé, c'est que c'était un métier stable, bien, confortable, avec des vraies possibilités d'avenir, avec des vraies évolutions, etc. Et que c'était le métier de freelancing confortable par excellence. Et j'ai dit, mais ça, c'est terminé. C'est terminé dans le sens où ça le sera peut-être encore, mais là, on est face à un problème de fond qui est que de moins en moins de clients vont comprendre pourquoi nous lâcher 50 balles pour un texte, alors que ChatGPT génère le même texte pour 20 euros par mois et en illimité. Ça coûte quelques centimes à peine. Donc les clients, à un moment donné, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Et c'est une question qu'il faut résoudre. Et ça me hante. J'y réfléchis tous les jours à ce truc-là. Si je suis un client qui utilise ChatGPT et que je n'ai pas de compétences marketing particulières, parce que si j'en ai. Et puis quelque part, j'arrive à me débrouiller. Ou en tout cas, je sais sentir quand je fais des trucs pas bien. Ok. Mais si je Et si je n'ai pas ces compétences et que je produis mes textes et que je dis « Ah, ça ressemble à un texte », je vais pouvoir le mettre, Google, il va bien aimer. Est-ce que je me rends compte du problème et est-ce que je comprends, est-ce que c'est audible, un rédacteur qui vient qui dit « Oh là là, faut que je refasse tous vos textes, ça va vous coûter 4000 euros ». Est-ce que la plus-value, elle est entendue? Est-ce que la valeur est entendue? Pour qu'un tarif soit bon, il faut que le tarif que je vous donne soit inférieur pour vous au service que je vous rends. Si je vous fais un tarif que vous estimez à 4000 euros et que je vous vends 4000 euros, vous allez chercher ailleurs pour voir s'il n'y a pas un tarif meilleur. C'est comme ça. C'est pas qu'il est trop cher, c'est le prix. Vous n'avez pas envie de payer le prix. Personne n'a envie de payer le prix. Donc, vous allez chercher moins cher ailleurs. Donc, il faut que ma promesse soit supérieure au tarif que je propose. Et ainsi, on a un bon prix. Des fois, il y a des élèves qui me disent « Comment je fais pour faire mes tarifs ?» Ben, tes tarifs sont indexés, tout simplement, à l'attente de la personne et à la force de la promesse. J'améliore votre SEO avec des textes et il va falloir environ 50 ou 100 textes pour avoir une vraie amélioration. Vous ne pouvez pas vendre des textes 100 euros. Ça ne marche pas. Bref, ça, c'est une autre histoire. Je ne vais pas rentrer dedans. Donc, voilà. Et j'ai tous mes points qui sont comme ça en souffrance. Les cours que je donne dans la formation explorateur, eh ben, ils datent de début d'année 2023. C'est pas si loin, hein. Mais ils sont invalides du fait que ChatGPT est passé là. Qu'est-ce que vous voulez qu'on... Enfin, tout change. Donc j'attends, je mûris, j'observe, et il faut que je réactualise tous ces cours. Mais en même temps, c'est des cours de quoi? Et je vais donner des cours de rédaction web, sachant que les gens... Le premier cours, ça va être « Ah là là, le métier souffre !» C'est une vraie question. Mais en même temps, je sens que c'est pas le moment de fermer. Là où mon ami m'a dit « Je viens pas parce qu'il n'y a aucune thune à se faire, personne ne veut ton truc », je me dis « C'est pas le moment ». J'ai fait passer un sondage sur LinkedIn pour demander ce que les rédacteurs web veulent et ce dont ils ont le plus besoin en ce moment. Et prospection sort en premier, il y a une souffrance là-dessus. Mais prospection par rapport à quel marché? C'est tout le problème. Des rédacteurs web qui font des contenus que ChatGPT peut faire et qui ne font pas mieux que ça. Parce qu'ils répondent à des briefings, tout simplement. Et ils répondent un peu d'une manière un peu scolaire. Il y a quelques années, je me souviens, je pétais un plomb parce que j'avais des rédacteurs qui venaient me dire « Je déteste le marketing, je n'en ferai jamais. » Et t'es là, tu dis « Mais tu travailles pour des entreprises qui ont besoin de gagner de l'argent, qu'est-ce que tu racontes ?» C'est quand même, c'était un peu fou. Mais donc tous ces gens-là sont remplacés. Comment il disait le mec sur... sur internet, là, qui faisait halluciner le macho qui parlait des meufs, qui disait « Ouais, les meufs qui se maquillent, ça dégage. » Il disait « Ça dégage. » Bah là, c'est pareil, les rédacteurs web qui font juste les briefings qu'on leur demande et rien de plus, ça dégage. Les rédacteurs web qui promettent du SEO et qui font le minimum dessus, ça dégage. Parce que ChatGPT sait faire. Et il sait faire sans compétences. Les gens, ils chopent des prompts. Vous savez qu'il y a des gens qui vendent des prompts. C'est-à-dire les commandes textes qui permettent à ChatGPT d'obéir à un ordre. Il y a des gens, ils vendent des prompts, vous marquez juste le sujet de l'article et il produit l'article et vous le mettez en ligne. Bien sûr que l'expertise se revend derrière. Bien sûr. Alors, le cercle des rédacteurs en est là. Le réseau social du cercle des rédacteurs qui est payant, les gens ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer pour avoir quelque chose. Il y a bien quelqu'un qui est venu me voir au mois d'août et qui m'a dit je me sens un peu fragilisé par la situation. J'aimerais bien faire partie d'une communauté qui me soutient et puis avec qui je peux discuter ouvertement de ces choses-là et on peut chercher des solutions et y réfléchir ensemble. Et je trouve que ça, c'est un bon raisonnement. Maintenant, pourquoi c'est payant? C'est payant parce que c'est un réseau social privé qui s'appelle Workplace, qui est un service de Facebook et qui coûte de l'argent par personne, par mois. Donc, c'est payant. Sans parler du fait qu'il y a du temps consacré aux animations, au partage de ressources, etc. Donc il y a un service aussi. Mais moi, c'est pas clair. Les gens ne comprennent pas. Donc voilà, mon pote, il me disait, ton réseau social, il pourrait équivaloir vaguement à une espèce de newsletter pour faire du lead nurturing en attendant que les gens signent des formations, mais je trouve pas ça pertinent. je trouve ça lourd. Alors t'es là, tu te dis, mais c'est pas l'idée, c'est pas comme ça que je l'ai pensé. Tout le réseau du cercle est bâti sur grandir ensemble. On est là pour amener des réponses, des solutions à nos membres et les aider, et entre eux, qu'ils s'entraident aussi pour bâtir des carrières ensemble. C'est un réseau professionnel. Et on n'arrive pas encore à trouver son sens comme il faut. Il en a, mais il en a trop. Il se disperse. Il n'arrive pas à être compétent sur son sens. Pour l'instant, le réseau social est principalement rempli de mes élèves. Les élèves, donc, des formations précédentes, des formations passées, de ceux qui ont pris explorateur, c'est-à-dire des gens, pour la plupart du temps, qui débutent. Ils n'ont pas de questions. On fait des cours de... Enfin, pas des cours, on fait des entretiens, des lives, en quelque sorte, de conseils et stratégies, de 2 mardis par mois. Et en fait, il n'y a quasiment personne qui vient, parce que personne n'a d'activité professionnelle. Les gens, en tout cas, n'en ont pas besoin. Ceux qui sont en activité professionnelle et qui tournent, ils n'ont pas besoin de conseils et stratégies. Et ceux qui ne tournent pas encore, ils n'en ont pas besoin non plus. Donc, il n'y a pas de demande à cet endroit-là. Donc, ça coince un peu. Et c'est que des erreurs de ciblage comme ça par rapport au public du cercle. Donc, il faut repenser ça. Alors, le cercle, pour l'instant, la forme que ça va devoir prendre pour espérer développer un avenir et continuer à rester toujours utile pour ses membres, c'est vraiment quelque chose qui s'adapte à l'époque. L'époque est trouble. Je dis pas qu'elle est foutue, hein. Je dis qu'elle est trouble. Quand j'ai demandé à mon pote quel était l'avenir des rédacteurs web, il m'a dit les rédacteurs web traditionnels, c'est terminé, mais les rédacteurs web qui vont s'adapter à la nouvelle situation, eux, ils peuvent même s'en sortir bien mieux qu'avant. Donc il y a une transition à faire. Mais cette transition, il faut qu'elle se fasse à plusieurs niveaux. Ça doit être les rédacteurs qui font la transition vers très probablement l'architecte de contenu ou le rédacteur augmenté. L'architecte de contenu est une position intéressante parce qu'il ne s'agit plus d'écrire. La valeur et la promesse ne se trouvent pas dans l'écriture, mais dans l'architecture de la manière d'agencer les écritures. Et donc, les outils, on s'en fiche. C'est intéressant comme point de vue. Et le deuxième, c'est le rédacteur augmenté, qui est un rédacteur communicant et marketing et qui utilise l'intelligence artificielle comme une agence de communication. Donc c'est intéressant pour lui aussi de pouvoir proposer des compétences et des promesses qui sont de l'ordre du marketing. Il y a aussi prompt engineer en content marketing qui peut exister, qui est le fait de savoir générer des contenus qui savent vendre. Et là, on retombe sur la promesse des copywriters qui ne savent pas faire ce que je viens de dire. Enfin, ils savent faire des pages de vente, des stratégies de vente, des trucs, mais ils ne savent pas générer des contenus comme nous. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais copywriter, c'est pas quelqu'un qui sait tout faire, hein, loin de là. C'est quelqu'un qui a vraiment des spécialisations très très resserrées. Et pour le reste, il n'est pas compétent. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés qui étaient très reconnus et qui travaillaient avec moi, en tant que rédacteur, il n'était pas. D'accord. Bon. Ceci étant, il y a prompt engineer qui peut fonctionner aussi. Je pense qu'il faut développer, pour ceux qui veulent apprendre la rédaction web, il faut développer une formation pas très chère qui consiste essentiellement à leur apprendre en profondeur la position du rédacteur web dit communicant, ou en tout cas rédacteur web marketing et SEO. Il y a besoin vraiment qu'ils puissent aller vers cette profondeur-là. Il y a besoin aussi qu'on puisse ouvrir la spécialisation de la maîtrise de ChatGPT à beaucoup plus de gens que simplement la rédaction web, parce que la rédaction web est très tardive sur le sujet et ils sont finalement très peu nombreux à vraiment s'y mettre, et il n'y en a quasiment pas qui ont mon niveau d'expertise, mais ils ne sont pas des tonnes à le demander non plus. Donc, j'en prends note. Et je pense qu'il faut refonder un cycle de formation pour l'avenir de la rédaction web. Mais quelque part, la question, c'est: est-ce qu'il y aura des clients? Est-ce que vous avez envie de faire une formation dans un métier où on vous dit « il va falloir se battre » ? Est-ce que c'est ça ce que vous voulez ? Il y a des endroits dans le monde où on est prêt à se battre. Parce qu'il faut une solution. Mais nous, en France, par exemple, bah, si c'est pas ça, c'est autre chose. Les gens vont juste se dire « Ah ben, j'ai raté l'époque de l'Eldorado où il y avait tellement de contrats, on pouvait vivre tranquille à écrire des textes. Maintenant, tout est devenu trop compliqué. » C'est possible aussi, je sais pas. Il y a aussi le fait de pouvoir promouvoir à l'intérieur du cercle des nouvelles formes commerciales comme des alliances entre les continents pour pouvoir générer et proposer des choses à des clients qui sont plus accessibles en termes de tarifs et toujours aussi qualitatifs, etc. Il y a plein de choses comme ça. Bref, je fourmille d'idées, comme d'habitude, mais j'ai du mal à savoir quelle est la bonne démarche, quel est le bon chemin. Parce que le chemin le plus sûr pour l'avenir de la rédaction web est un chemin que personne ne veut suivre. C'est un chemin qui va être fait je trouve pas le mot, mais en gros, il faut réussir à convaincre les clients. C'est de la conversion, en quelque sorte, pardon. Il faut réussir à les convaincre de changer leurs habitudes et de les convaincre, par exemple, de nous confier à nous les choses. Je vois bien un architecte de contenu, par exemple, dire à un de ses clients, j'ai regardé votre site, vous risquez beaucoup avec les algorithmes de Google, notamment le quality content, vous risquez vraiment beaucoup, je vous propose de reprendre tous vos contenus, moyennant un tarif que je vais rebâtir, je vais en profiter pour rebâtir l'architecture de votre site, pour pouvoir améliorer sa fluidité, améliorer son fonctionnement, on va rajouter des contenus pour repositionner le SEO, et je ne vous facture pas au contenu, parce que je les génère, je les sous-traite, je me démerde. Non, je vous facture le projet. Et après, je mets le nombre de contenus que je veux pour atteindre l'objectif. Vous achetez la promesse. Vous achetez plus des textes. Les textes ne valent plus rien. ChatGPT génère des textes comme du pop-corn. Ça ne vaut plus rien. La promesse vaut quelque chose. Mais ça, c'est toute une rééducation. Ouh, je vais me casser la gueule. Non, c'est bon. C'est toute une rééducation pour nos clients. On doit repenser les choses. Alors, est-ce que le cercle des rédacteurs est prêt à cette bataille-là? Est-ce que si on fait des cycles d'ateliers, d'échanges, de discussions, de formations, des trucs un peu avancés, chaque mois, plusieurs, voire chaque semaine, plusieurs, est-ce qu'il y a des gens qui voudront venir rentrer dans le cercle pour ça, suivre leur... rentrer dans un réseau professionnel? Est-ce que ça les intéresse? Il y a quelqu'un qui me disait « Trouve le moyen d'avoir des contrats et tu ne manqueras pas de clients. » C'est un autre raisonnement. Je travaille actuellement sur un concept d'agence du cercle qui serait à la fois une école et qui serait à la fois des contrats pour des clients. Et des trucs comme ça, mais ça demande énormément de temps de redévelopper toutes ces choses-là. C'était mon ancien métier, j'ai plus le moindre réseau. Comme je vous ai dit, tous les clients qu'on avait avant, aujourd'hui, ils génèrent eux-mêmes. Donc, c'est d'autres clients qu'il faut aller chercher. Il y a des profils qui nous cherchent, il y a des profils qui nous veulent. Mais il faut aller les trouver, il faut aller les démarcher. Est-ce que c'est mieux si on le fait en bande? Peut-être. Peut-être, peut-être, peut-être. Je ne sais pas. Il y a aussi le projet de mentor qui m'intéresse. Mais pareil, on se heurte au problème que le mentor doit diriger son élève, entre guillemets, parce que c'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui devient le mentor, pour lui faire trouver des contrats, contrats sur lesquels il gagnera de l'argent quand les contrats seront faits. Mais ça va lui demander énormément de temps, ça sera peut-être pas très rentable, ça peut être problématique. Donc, il faut trouver aussi le moyen de paramétrer ces choses-là. Bref, on ne manque pas d'idées, il faut un point de départ. J'avais envie de vous parler un peu de ça parce que c'est une réalité. On est en train de se battre pour quelque chose. J'arrive pas à avoir l'audience que je veux. J'arrive pas à être entendu sur ce que je veux dire. Quand je publie des choses, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'impact. J'ai l'impression que je fais déjà partie du décor. Alors que la maison est en flamme, je pointe l'endroit où il y a l'extincteur, personne m'écoute. Faut que je trouve une manière de gagner en puissance, que ma voix gagne en puissance pour pouvoir proposer mes solutions. Parce que là, les solutions actuelles, on est entre le déni et l'abandon. Et je ne crois pas qu'on a fini cette bataille. Je pense que la vraie solution, c'est la transformation. Mais c'est pas l'abandon. C'est l'évolution. Et c'est un vrai questionnement. Et on devrait être nombreux à en discuter. Donc, ça peut faire partie. Il faudrait organiser ces rencontres. Il faudrait qu'on en parle. Je vais réfléchir à ce sujet-là. En tout cas, je ne sais pas si ça vous a intéressé, mais plus passe le temps et plus ce podcast ressemble un peu à, comment dire, au making-of du Cercle des rédacteurs. Je ne sais pas si ça intéresse les gens. J'espère que c'est toujours nourrissant pour votre propre réflexion, que ça vous fait toujours avancer. Je regrette de ne pas être plus présent que ça, mais vraiment, je suis bousculé tout le temps en ce moment, absolument tout le temps. J'ai des raisons d'être préoccupé tous les jours. Il y a de nouvelles nouvelles, comme qui dirait. J'essaye, quand je peux, quand j'ai le temps, quand je peux respirer, quand je suis pas sous pression, quand je dois pas régler des trucs, j'essaye de vous faire quelque chose à propos de quelque chose que j'ai appris, compris ou expérimenté. Je vous dis à bientôt. Au plaisir, n'oubliez pas, les MOOC sont gratuits sur le Cercle des rédacteurs, c'est des cadeaux qu'on vous fait, c'est des choses de qualité, c'est des vraies formations qui peuvent vous aider. Allez voir. Allez, à bientôt. Ciao.